Session de philosophie éthique par le père Marie-Dominique Philippe à Rimont le 16 mai 1996, deuxième conférence.
Qui tend vers la vérité me rend libre. obligé de se référer aux opinions des autres. Donc on n'est pas libre. On dépend de l'opinion des autres. Donc la parole de Jésus est parfaitement vraie au niveau philosophique. La vérité me libère. Elle augmente mon champ de liberté. Plus je vais loin dans la recherche de la vérité, plus je pose des actes libres. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Oui, donc là, tout de suite, je m'aperçois de cela. Et je m'aperçois que la vérité que je découvre, si elle est profonde, si elle va loin, si elle regarde l'homme dans ce qu'il a de plus profond, me permet de choisir librement tel homme comme ami. Pour que je dise à quelqu'un, tu es mon ami, veux-tu être mon ami ? Il faut que je le connaisse. Et si je ne le connais pas, mon acte sera beaucoup moins libre. Donc vous voyez, alors on tombe sur le sujet fondamental, la foi chrétienne, je dis la foi chrétienne, la foi surnaturelle et chrétienne, qui me fait adhérer à la révélation, loin de supprimer mon intelligence. Réclame de moi d'éveiller davantage mon intelligence et de rechercher avec plus de force la vérité sur l'homme. Satan se pose la question, et je dis Satan parce que c'est bien, c'est quand même un théologien intelligent, puisque je ne sais pas sur les théologiens qui sont actuels en vie dans 400 ans ou 500 ans ou 600 ans, on parlera encore d'eux. Oui, on fera toujours des thèses sur eux pour trouver des thèses. On déterre les morts. C'est ce qui se passe en université. On déterre d'illustres inconnus que personne n'a parlé d'eux. On fait une thèse. Ça ne sert à rien, ça ne fait rien. On aura un diplôme. On déterre des enfouis. Et on retrouve des ossements. Et on essaie de voir si tous les ossements se tiennent ensemble. On retrouve un petit doigt. Puis loin, un orteil. Qu'est-ce qu'il y a de ressemblance ? Et on fait une thèse magnifique là-dessus. Personne ne connaît le sujet, c'est royal. Et c'est vrai, et c'est très souvent comme ça. Parce que quand même le candidat qui fait une thèse a travaillé pendant 2 ans dessus, ou 3 ans, ou 4 ans, le professeur le suit. Mais lui, il n'a pas travaillé 4 ans dessus. Alors même s'il est beaucoup moins intelligent, présupposé moins intelligent. Quelquefois, on a des étudiants plus intelligents que nous. Et tant mieux, du reste. Ça a été la grande joie d'Albert le Grand d'avoir un étudiant plus intelligent que lui. Alors, ça fait sa gloire. Mais, si je suis professeur d'un génie, ma gloire est assurée. C'est merveilleux. Je suis monté sur le sycomore. Alors ma gloire est assurée. Comprenez bien que la foi ne diminue pas mon intelligence. La foi n'est pas un été noir de mon intelligence. La foi chrétienne, au contraire, réclame que mon intelligence soit vivante. ne supprime pas la délivrance. Et même l'Église a condamné Vatican I, le fidéisme, ceux qui prétendent que l'intelligence humaine, à cause et conséquence du péché, est incapable d'atteindre la vérité. C'était la position de Luther. Ce qu'on appelait le fidéisme. Que seule la foi me permet d'atteindre la vérité. Un scientifique, un matheux, peut-être beaucoup plus intelligent, même s'il n'est pas croyant, qu'un autre matheux croyant, mais beaucoup moins intelligent. Je me souviens, c'était un professeur de mathématiques à Polytechnique qui était venu quand j'étais chez les Dominicains nous raconter sa conversion. C'était très beau. Alors, ce qui était moins édifiant, c'est quand il a dit « Maintenant, j'enseigne les mathématiques chrétiennes. » Je me suis dit « Tiens, qu'est-ce que c'est que les mathématiques chrétiennes ? C'est sans doute 2 et 2, 5. Ça doit être ça, les mathématiques chrétiennes. Parce qu'il y a un plus. » Il y a des chrétiens qui font des mathématiques. Alors, ils enseignent des mathématiques pour la gloire de Dieu. Tandis que un athée qui fait des mathématiques n'enseigne pas pour la gloire de Dieu, puisque Dieu n'existe pas pour lui. C'est pour sa gloire. C'est toute la différence. Vous voyez, là, on touche tout de suite la finalité. C'est la seconde question. On touche tout de suite la finalité. Le chrétien fait tout pour la gloire de Dieu. Pour la gloire du Christ et pour Dieu. Mais il mange comme un païen. Aussi. C'est pas parce que j'ai été baptisé que, à partir de ce moment-là, ça dépendra de deux spiritualités où je mangerai beaucoup mieux parce que je suis chrétien. Mon estomac s'est ouvert parce que je suis chrétien. Ou bien au contraire, l'autre qui dira parce que je suis chrétien, oh, je ne vais plus manger du tout. Je vivrai uniquement de l'air pur qui vient de Dieu. Puisque je suis fils de Dieu. La foi n'a pas modifié votre estomac. La foi n'a pas modifié votre morphologie. La foi n'a pas modifié vos nerfs. C'était à l'âge. Il y avait quelqu'un qui était particulièrement malade des nerfs, très agité. Et quand il a demandé d'être baptisé, il était à l'âge. L'âge de Jean Vanier. Il était déjà large depuis quelques années. Et tout le monde a été très frappé que pendant ce baptême d'adulte, il ne tremblait plus. Il était silencieux. Il priait. Alors on lui a demandé, qu'est-ce que c'est que le baptême ? Oh, le baptême, c'est le Christ qui tue les nerfs. J'ai trouvé ça magnifique comme définition. C'est symbolique comme langage, c'est symbolique. Il veut exprimer que pendant ce temps-là, il a eu une grâce de calme, de paix, d'amour. Alors c'est Jésus qui tue les nerfs. D'habitude, il est agité, agité tout le temps. La grâce ne change pas notre nature humaine. Elle la transforme du dedans par mon âme. Mais la science biologique ne peut pas discerner dans un malade, dans dans un homme chrétien et un homme non chrétien. C'est la science biologique qui fait des expérimentations sur un cadavre ne va pas dire est-ce que ce cadavre c'était celui d'un chrétien, est-ce que cette tête c'était la tête d'un chrétien. C'est de justifier mes idées. C'est une justification des idées. Je me souviens, je prêchais à Limoges, au Carmel de Limoges, la mère prieure de retraite. La mère prieure m'a dit, est-ce que ça vous dérange pas, père ? C'était au moment où on parlait énormément des prêtres ouvriers. Est-ce que ça vous dérange pas ? Il y a 5 prêtres ouvriers qui, chaque semaine, viennent prendre leur repas à midi ici. Est-ce que ça vous dérange pas de prendre votre repas avec eux ? Je dis au contraire, je suis très heureux de les rencontrer. J'étais en dominicain. Eux n'étaient pas précisément dans leur habit religieux. C'était normal parce qu'ils travaillaient. Alors tout de suite on s'est présenté. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je dis, je suis à l'université de Fribourg. Je suis professeur ouvrier. Je suis à l'université de Fribourg et j'enseigne la philosophie. La philosophie, c'est pas clérical. La philosophie est en dehors du point de vue confessionnel. Catholique, protestant, islam, n'importe quoi. Alors ils m'ont dit, mais quelle philosophie enseignez-vous ? Alors j'aurais dit, chrétien. Pour vous, il y a plusieurs philosophies. Là, ils étaient coincés. Ils n'ont pas osé parler. Je veux dire qu'une seule philosophie, c'est de chercher la vérité sur l'homme. Et vous comprenez que moi, ça m'intéresse. Chercher la vérité sur l'homme. Parce que vous, vous êtes prêtre ouvrier pour quoi faire? Pour connaître la vérité sur l'ouvrier. Mais vous ne comprendrez jamais ce que c'est que l'ouvrier si vous ne connaissez pas l'homme. Alors là, je passe devant vous. Parce que vous ne pouvez connaître l'ouvrier que si vous connaissez l'homme. Comme vous ne pouvez pas connaître le patron si vous ne connaissez pas l'homme. C'est évident. Alors j'aurais expliqué qu'une vraie philosophie partait de l'expérience. De notre expérience. J'ai bien gonflé le ballon. Alors il m'a dit, mais ça doit être intéressant. Hein. Alors j'ai dit, mais c'est évident que c'est intéressant, autrement je ne le ferai pas. Vous comprenez? C'était pas intéressant, je n'enseignerai pas la philosophie. Et je leur ai dit, vous devriez venir un petit peu à Fribourg, ça vous ferait beaucoup de bien. Faire un peu de philosophie. Vous comprendriez beaucoup mieux ce que c'est que l'ouvrier si vous faisiez la philosophie. Parce que vous verriez beaucoup mieux l'influence de quelqu'un qui est ouvrier à la chaîne, de l'ouvrier qui a un peu plus de liberté, de l'ouvrier artisan, et ainsi de suite, toutes les manières différentes d'être ouvrier, et de voir que cela influe sur la psychologie de l'homme. Mais ça ne touche pas la personne humaine. La personne humaine n'est pas touchée directement par le travail. Le travail nous aide à être plus homme, c'est sûr, et avoir une personnalité. Mais ce n'est pas le travail qui est notre personnalité humaine. Alors ça les intéresse beaucoup. Vous ne pouvez pas construire ce que c'est que l'homme à partir uniquement du travail, parce qu'il y a d'autres expériences humaines. Et c'est vrai, faire la philosophie de l'homme, c'est partir à partir de toutes les expériences de l'homme. Et comprendre toutes les expériences de l'homme. Au moins comprendre les expériences majeures de l'homme. Ce matin, quelle est la finalité de l'homme? Pourquoi? Parce que je ne peux découvrir l'acte moral dont je suis responsable, l'acte humain dont je suis responsable, qu'à partir de ma finalité. À partir de celui qui ne veut pas la finalité. Parce qu'il y en a. Les idéologies ne cherchent pas la finalité. Puisque l'idée finalise les idéologies. Alors vous voyez, il faut comprendre d'une part, et c'est très important, que la foi ne supprime pas la sagesse philosophique. La foi m'aide, elle peut m'aider, mais elle ne m'aide pas directement. Parce que je sais que l'expérience que j'ai de ma foi n'est pas l'expérience humaine tout court. Elle est l'expérience d'un croyant. Et tout le monde n'est pas croyant. Je ne suis pas né croyant. Or, la philosophie, c'est la recherche de ce qu'il y a d'humain en moi. Et de tout ce qu'il y a d'humain en moi. Et je peux, par la philosophie, discerner ce qui est bon dans mon développement humain. ce qui est contraire à mon développement humain. Je sais très bien que là, il y aura des disputes, parce que les uns diront que c'est humain, et les autres diront que c'est pas humain. Oui, prenez aujourd'hui, hein, des grosses disputes, c'est ça. Hein. Est-ce que je peux mettre sur le même plan l'union de l'homme et de la femme dans le mariage ou l'union de l'homme avec l'homme dans l'homophilie, comme on dit en Allemagne. Est-ce que c'est un vrai foyer? Est-ce que c'est un véritable foyer? De voir des hommes qui s'aiment et qui s'aiment un petit peu trop passionnément et qui vivent ensemble et qui réclament d'être reconnus comme un foyer. Est-ce naturel? N'est-ce pas naturel? Vous voyez, le problème philosophique consiste à discerner ce qu'il y a de naturel dans mon développement humain. Et ce qui peut être une déviation, ce qui peut être une maladie. Quand on est enrhumé, on sait que c'est pas naturel, c'est accidentel. Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est pas naturel? C'est le philosophe qui essaie de chercher ça. Qu'est-ce qui est naturel? Qu'est-ce qui n'est pas naturel? Qu'est-ce qui est un développement naturel? Qu'est-ce qui n'est pas un développement naturel? Et c'est pas toujours commode. Qu'est-ce qui est artificiel en moi? Dans Valérie, il y a M. Test qui est sur le bord de la mer et qui voit un merveilleux sont très curieuses, très proches d'un coquillage. Il se pose la question, est-ce que c'est naturel ou est-ce que c'est artificiel, sculpté par un homme? On subit des influences. Il y a des maladies qui sont propres à notre siècle. On les a du moins découvertes à notre siècle. Alors, est-ce que cette maladie est naturelle ou est-ce que c'est une maladie? Si elle est naturelle, elle fait partie de mon développement. Si elle est artificielle, j'ai attrapé ça en fonction de... J'étais dans tel milieu et j'ai fréquenté telle personne qui, elle, était malade. On a isolé les lépreux pour que tout le monde ne soit pas lépreux. Il y a des maladies très curieuses. En Angleterre, les vaches folles. Alors on a détecté ça, que normalement la vache n'était pas folle. Mais c'est vrai que c'est pas toujours commun de voir la différence entre un homme fou et un homme non fou, qui est génial. Quelquefois, vous êtes en face de certains génies. Dites-lui, c'est curieux et génial. Mais c'est très proche de la folie. Alors, je ne sais pas pour ces vaches, parce que je n'en ai pas encore rencontré. Ça m'intéresse curieux comme expérience. Mais ça a d'immenses répercussions, puisqu'on interdit de vendre ces viandes. Vous comprenez que ça va avoir des répercussions terribles. Il y a des maladies comme ça qui apparaissent. Et il n'y a pas seulement des maladies, mais il y a une manière de vivre qui apparaît. Et au bout d'un certain temps, cette manière de vivre s'impose. On dit, mais c'est naturel. C'est tout à fait naturel. Tout le monde le fait. Et on établit des lois en fonction du suffrage universel. Si tout le monde le fait, c'est naturel. Alors quand il y aura plus de fous que de gens non fous, on dira que c'est naturel d'être fou. On fera des lois pour les non-fous. Oui, c'est quand même très important de savoir réfléchir sur ce qu'est la nature humaine. Et saint Thomas nous dit que la foi est nécessaire pour orienter l'homme vers la vision béatifique. Pour tout le reste, l'intelligence humaine peut découvrir ce qu'est la nature humaine et découvrir qu'il y a donc une morale naturelle et que la morale ne dépend pas du progrès de la science. J'ai lu une fois le compte-rendu des réunions internationales philosophiques qui se passait à Genève. Et c'était sur la morale. Alors Monod, le professeur Monod, prix Nobel, affirme. On ne pouvait pas avoir la même éthique que ceux qui n'avaient pas connu la science biologique. Marie parlait de la science biologique sans parler de l'âme. Et donc la petite fille se posait la question. Il est très savant. Il nous dit des choses très intéressantes. Il n'a pas dit un seul mot sur l'âme. Alors, à partir de là, il s'était signé Brigitte. À partir de là, il a écrit un livre. Qu'est-ce que c'est que l'âme, demande Brigitte. Je trouve ça merveilleux. Vous voyez, ce petit enfant de 10 ans, petite fille de 10 ans, qui suivait sûrement les leçons de catéchisme, devant ce grand savant, qui lui avait dit, n'hésitez pas à décrire, qui pose la question. Qu'est-ce que c'est que l'âme, monsieur le professeur? Alors, lui qui était très positiviste au début, s'ouvre à quelque chose d'autre. Et dans ce livre qu'il a écrit, il termine en disant, oui, la science biologique ne dit pas tout. Il y a des forces morales. Vous savez bien, quand quelqu'un est à l'hôpital, on demande comment ça va après une opération. Il dit pas trop mal. Il a très bon moral. Et les médecins disent ça. Et les infirmières disent ça. Il a très bon moral. On ne dit pas. Il a une très bonne santé. Il a un très bon moral. Et c'est peut-être cela qui va le sauver. Donc on reconnaît qu'au-delà de la science biologique, il y a la morale. Alors vous comprenez bien que la morale ne peut pas reposer sur les progrès de la science biologique. Ce serait contraire à cette affirmation que nous comprenons très bien. Ce malade, il va sans doute guérir parce qu'il a très bon moral. La morale dépasse l'aspect de la science biologique. Et c'est ce que reconnaissait très bien ce professeur. Il dit, il y a les spirituels, il y a les gens qui ont bon moral, il y a les spirituels, il y a les mystiques. Il parle d'une âme spirituelle. Ce que la science biologique n'atteint pas et ne peut pas atteindre. Et c'est très important aujourd'hui de bien voir que la philosophie regarde un domaine que la science ne peut pas atteindre. Le point de vue éthique et moral est au-delà de la science psychologique, au-delà de la science biologique et au-delà de la psychologie. Pourquoi? Parce que le philosophe s'intéresse en premier lieu à la finalité. Quelle est la finalité de l'homme. Et je découvre cette finalité à partir de mes expériences humaines. Et c'est ce que j'ai essayé ce matin de vous dire. Quelle est l'expérience humaine qui me fait découvrir ce pourquoi l'homme existe. Ce pourquoi l'homme existe. Quand vous posez la question « ce pourquoi », c'est la question de la finalité. L'homme existe pour être capable d'aimer. Capable de rencontrer un homme, une femme et de l'aimer. C'est étonnant ça. Et ça, ça dépasse la science. La science ne peut pas découvrir la finalité. Elle ne peut pas découvrir non plus les valeurs. La psychologie peut découvrir les valeurs. La science découvre les lois biologiques à partir d'expériences objectives et qui établissent des lois. La philosophie, elle, part d'une expérience toute simple, l'expérience de ma vie humaine. je me souviens un dialogue que j'avais fait avec un professeur de médecine à la faculté de médecine à Paris sur la vie. Et on avait demandé à ce professeur de médecine de parler de la politique de la vie. Bon, ça m'intéressait aussi beaucoup. On est devenus des amis après. Puis après, on a dit, que dit le philosophe sur la vie humaine? J'ai dit, toutes ces découvertes qu'a fait le savant, ce savant biologiste, spécialisé sur le point de vue embryonnaire, l'embryon et le développement de l'embryon. Comment a-t-il pu me parler de la politique de la vie grâce aux expériences qu'il a faites, aux expérimentations qu'il a faites? Ces expérimentations, il les a faites avec des instruments très spécialisés, des microscopes, et puis aussi par quelquefois des opérations qui ont posé certains problèmes et puis qu'on a essayé de résoudre après. Pourquoi le philosophe ne se sert-il pas de microscope? C'est une très grave question, ça. Je ne peux pas répondre, je ne me sers pas de microscope parce que Aristote ne s'en servait pas. Parce que Thomas d'Aquin ne s'en servait pas. Si je réponds comme ça, je suis un imbécile. Parce que j'imite et je ne cherche plus. Et imiter, c'est très bien quand on est jeune. Jusqu'à 14 ans, on imite. Et quand on arrive à un âge un peu plus mûr, on n'imite plus. On imite de temps en temps. Et on dépasse vite. Parce qu'on sait qu'imiter, c'est être dépendant de quelqu'un qui n'est pas nécessairement pour moi un modèle. Je n'imite pas Aristote. Je n'imite pas Thomas d'Aquin. Ils me servent comme des amis. Et j'écoute ce qu'ils disent. Je lis ce qu'ils disent. Pourquoi le philosophe ne se sert-il pas de microscope très poussé, des techniques très poussées? Pourquoi? Parce qu'il veut avoir l'expérience immédiate des opérations vitales. J'ai l'expérience de vous parler. Je sais que ma voix est cassée. Je le sais. Et la voix cassée reste la voix. Et on peut, avec des appareils techniques, arriver à faire que... Évidemment, si j'étais du temps d'Aristote, je dirais, je ne peux plus faire de conférences, mais je peux encore parler. Et dès qu'il y a du monde, ça s'entendrait plus. C'est évident. J'en suis convaincu. Je le sais. Mais l'expérience de parler n'est pas liée à ça. On peut parler avec une voix cassée. On peut parler avec une voix de tonnerre. Et on peut parler avec une voix de tonnerre sans qu'il y ait rien dedans. Si c'était du bruit. Alors pour réveiller les gens, c'est mieux. Et on peut parler avec une voix cassée en transmettant la pensée. Quelque chose qui est au-delà de la voix et que la voix transmet. Une sorte de canalisation. La pensée est au-delà de la voix. Elle est au-delà du langage. Normalement, elle est intérieure. Normalement, je parle quand j'ai pensé. et j'essaie de transmettre ce que j'ai pensé. Il faut saisir la vie dans son jaillissement. Et si je veux connaître, au plan philosophique, ce qu'est l'homme, j'essaie de saisir dans l'homme ce que je vous disais ce matin. Quel est le choix libre qu'un homme pose, qui donne à sa vie, qui donne à sa propre vie humaine toute sa signification. Et ça, je ne peux pas le saisir de l'extérieur. L'amour ne se saisit pas de l'extérieur. Ça se saisit de l'intérieur. C'est tous les gros problèmes d'aujourd'hui, vous savez, de la fécondation artificielle. Un problème terrible. Je crois terrible, on peut le dire, parce que ça aura d'immenses conséquences. Alors, est-ce que l'amour peut se saisir de l'extérieur? Quand j'aime, je suis en contact direct avec quelqu'un. Et j'essaie de lui faire comprendre par la parole, par le geste, que je l'aime. Mais mes gestes et mes paroles sont des signes d'une réalité beaucoup plus profonde qu'est l'amour. Et donc, si ma philosophie repose sur l'expérience, il y a une expérience tout à fait particulière, l'expérience de l'amour d'amitié. Est-ce que cette expérience de l'amour d'amitié n'est-elle pas l'expérience type de l'homme? Je vous ai posé le problème, vous avez réfléchi dessus. Alors j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Non. Et si vous ne l'êtes pas, vous dites pourquoi ça m'intéresserait. Parce que chaque fois qu'on vous pose une véritable objection, ça vous oblige de creuser davantage. C'est pour ça que c'est important de dialoguer. L'expérience la plus typique de l'homme, est-ce le travail ou est-ce l'amour d'amitié? Le travail est une expérience typique de l'homme. Parce que quand vous dites que le cheval travaille ou que le bœuf travaille ou que le tracteur travaille, et l'avantage du tracteur c'est qu'il n'est jamais fatigué, il s'use mais il n'est jamais fatigué, tandis que le cheval il est fatigué, donc c'est bien supérieur. Oui, mais il y a l'homme qui doit conduire le tracteur. Ah, lui se fatigue, mais l'homme peut le remplacer et le tracteur continue. Le tracteur ne travaille pas, c'est un outil, il ne travaille pas tout seul. Si l'homme n'est pas l'homme, c'est l'homme qui travaille. C'est une expérience typiquement humaine. Et je crois même que c'est l'expérience humaine la plus étendue. Comptez le nombre d'heures de travail que vous avez déjà fait dans votre vie. Et si vous vivez vieux, je ne sais pas ce que fait Saint-Pierre. Le nombre d'heures de travail dans sa vie, c'est extraordinaire. C'est l'expérience la plus durable. Et quand on vous dit « ne travaillez plus », vous dites « qu'est-ce que je vais faire ?» Tellement l'homme et la femme encore plus. Puisque la femme ne s'ennuie jamais, l'homme peut arriver à s'ennuyer. Tandis que la femme ne s'ennuie jamais, elle trouve toujours du travail. Parce qu'il y a partout de la poussière. Donc elle trouve toujours du travail. Elle trouve du travail partout. Le travail. Mais à côté du travail, il y a l'amour d'amitié. Vous pouvez travailler. travailler avec un ami. Mais normalement, quand l'ami est là, vous arrêtez le travail. C'est curieux. Et alors, de ces deux expériences, laquelle est-elle la plus profonde pour atteindre ce qu'est l'homme ? Le travail, il est toujours très déterminé. Et il est finalisé par l'œuvre. L'œuvre, c'est le fruit du travail. Mais cette fin qui est l'œuvre n'est pas la vraie fin de l'homme. Pourquoi ? Parce que c'est le résultat de mon travail. Si c'est le résultat de mon travail, ce n'est pas ce qui finalise l'homme. L'homme domine l'œuvre qu'il a faite. Toujours. Il est très fier de ça. Et l'œuvre qu'il a faite, peut-être pour lui, source de gloire. C'est Malraux qui dit que l'œuvre est métadestin. C'est-à-dire que l'œuvre fait dépasser le point de vue du destin. Pourquoi ? Parce que l'artiste peut mourir et l'œuvre demeure. Donc il y a quelque chose dans l'œuvre qui glorifie l'homme. Mais l'œuvre n'est pas la vraie fin et la véritable fin de l'homme. Parce que de fait, l'homme le domine. Tandis que dans l'amour d'amitié, l'ami n'est pas l'œuvre de l'ami. Quand vous voulez faire de l'ami votre œuvre, vous tuez l'amour d'amitié. Ça arrive de temps en temps dans un ménage. On s'aimait beaucoup. On se respectait beaucoup. Et au bout d'un certain temps, l'homme a voulu dire, ma petite femme, il faut que tu deviennes mon œuvre. Et donc tu changes ceci, tu changes cela, pour le faire comme je le veux. Vous tuez l'amour d'amitié. Très souvent ça arrive dans notre monde d'aujourd'hui. Parce que l'amour d'amitié implique un respect de l'autre. Et c'est l'autre qui me finalise. Ce n'est pas ce que je fais de l'autre. Ce que je fais de l'autre, c'est mon œuvre. Vous savez, il y a des luttes énormes entre l'amour d'amitié et l'artiste qui est en moi. C'est pour ça que je vois des jeunes qui s'aiment et que l'un est artiste et l'autre ne l'est pas. Je dis, vous savez, c'est pas commode hein, d'épouser un véritable artiste. Parce qu'au bout d'un certain temps, il va vous considérer comme une matière à mouler. Et il sera très heureux de vous former selon ses désirs. Et en faisant ça, il tuera l'amour qui est né dans son cœur. Ça, c'est des réalités concrètes, constantes. On voit donc que l'expérience qui me fait connaître l'autre, l'homme, tel qu'il est, et non pas selon mes idées, et non pas selon mon idée. C'est l'amour d'amitié. C'est l'expérience la plus parfaite. Alors, une philosophie qui essaie de comprendre l'homme dans son activité humaine, l'homme dans ses responsabilités, l'homme capable de gérer sa vie, comme disent les psychologues, c'est-à-dire d'orienter sa vie. Quel quelle est l'expérience qui me permettra d'aller le plus loin possible dans cette connaissance de l'homme. C'est l'amour d'amitié. Et c'est pour cela que je crois que la philosophie éthique, pas toute la philosophie, hein, la philosophie pratique, la philosophie morale, s'appuie, si elle veut être réaliste, sur l'expérience de l'amour d'amitié. Alors on objectera l'expérience de l'amour d'amitié, d'une véritable amitié, elle est rare. C'est vrai. Mais l'expérience de l'amour d'amitié est commune. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du plus et du moins dans l'amour d'amitié. Un véritable ami, un ami qu'on a depuis 30 ans, 40 ans, un véritable ami qui a résisté à toutes les difficultés, à tous les échecs, un véritable ami, c'est rare, c'est vrai. Mais l'expérience qu'on a de découvrir dans l'homme quelqu'un qu'on aime, alors cette expérience-là, elle est commune à tous les hommes, à toutes les femmes. C'est vrai qu'il y a des amitiés qui avortent, c'est sûr. Et c'est pour ça que quand il y a eu plusieurs amitiés avec des échecs, on dit « j'y crois plus à l'amour d'amitié ». Et vous n'y croyez plus à cause de quoi? Parce qu'il y a eu l'échec. Et quand il y a eu ce point de départ d'un amour véritable pour quelqu'un, vous avez été bien obligé de reconnaître qu'il y a quelque chose là d'unique, quelque chose qui a réveillé en vous votre volonté, votre amour, votre cœur, et que ça a été pour vous une expérience très profonde. Sans aller, voyez, jusque ce qu'on appelle le coup de foudre. C'est pas toujours un coup de foudre, l'amour d'amitié. Il vaut même mieux que ce soit pas trop un coup de foudre. Il y a du voile, du beaucoup de délicatesse. On s'approche de quelqu'un qu'on respecte et qu'on aime. On est attiré. Je crois que une véritable philosophie morale, éthique, doit reposer sur l'amour d'amitié. Alors, nous verrons ce soir comment il y a des niveaux différents d'amour d'amitié. Et c'est pour cela que je pourrais distinguer, et je crois que c'est nécessaire aujourd'hui, trois niveaux d'amour d'amitié. Je ne vous les nomme pas pour que vous les découvriez. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Collier.